It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. C'est une promesse électorale qui aura mis des années à voir le jour. La PMA pour toutes, la procréation médicalement assistée pour toutes les femmes, y compris donc pour les couples de lesbiennes, et celles qui veulent un enfant seul. Pendant la campagne présidentielle de 2017, le candidat Macron se prononce pour cette mesure. Son Premier ministre, Édouard Philippe, n'en fixera le calendrier que 2 ans plus tard. Pourquoi un tel délai? Qu'est-ce qui empêchait jusque-là l'accouchement de la PMA pour toutes? Une histoire révélatrice du travail politique. À mes côtés, Christine Mathéus, reporter au service Société qui a suivi le dossier depuis le début. Le 12 juin dernier, lors de son deuxième discours de politique générale, Édouard Philippe donne le feu vert pour le débat parlementaire sur la procréation médicalement assistée pour toutes.
Il autorise le recours à la procréation médicalement assistée pour toutes les femmes.
Est-ce que vous pouvez nous décrire cette scène à l'Assemblée nationale?
Il est interrompu par une standing ovation. Tous les députés, enfin une grande partie des députés se lèvent pour l'applaudir. Donc c'est vraiment de bon augure pour les partisans de la mesure.
Qu'est-ce qu'il dit précisément?
Il précise le calendrier attendu de longue date par ceux et surtout celles qui attendent la PMA pour toutes en France. Beaucoup craignaient que le débat soit repoussé après les élections municipales de mars 2020. Ce ne sera pas le cas.
Le projet de loi sera adopté en Conseil des ministres fin juillet et pourra être débattu au Parlement dès la fin septembre, juste avant la discussion budgétaire.
Ça a pris 2 ans pour aboutir à cette scène. Quand est-ce qu'Emmanuel Macron parle pour la première fois de la PMA?
La question, c'est est-ce que le candidat Emmanuel Macron en parle lors de la campagne présidentielle? Est-ce que c'est dans son programme? Alors, oui et non. C'est pas clairement précisé, mais c'est quand même sur son site de campagne. Il en parle. Il explique à plusieurs reprises que c'est sa conviction personnelle, qu'il est en faveur de la PMA. Lors d'un débat organisé avec le magazine Cosette, il le redit. Pareil avec le magazine Têtu. En tout cas, le candidat se prononce en faveur de la PMA sans que ça soit clairement spécifié dans son programme.
Dès la campagne de 2017, il envoie déjà aussi un message aux opposants à cette mesure.
Oui, parce qu'il garde en mémoire les manifestations monstres de 2012-2013 qui ont été organisées par le collectif associatif La Manif pour tous. Là, la France apparaît à ce moment-là divisée et il n'a pas envie de connaître ça sous son quinquennat. Donc, il leur explique qu'ils vont participer aux discussions, qu'on va attendre l'avis du CCNE qui doit se prononcer sur ce point. Il avait notamment dit qu'il n'était pas question d'humilier cette France-là, cette France de la manif pour tous.
Qu'est-ce que c'est le CCNE?
Alors le CCNE, c'est un organisme indépendant, Comité Consultatif National d'Éthique, qui est chargé de donner des avis en fonction des avancées de la recherche qui posent de nouveaux problèmes d'éthique et de société. Le gouvernement n'est absolument pas tenu de le suivre, mais c'est souvent une aide pour les parlementaires pour prendre des décisions.
Christine Mathéus, expliquez-nous à ce moment-là quelles sont les forces en présence. Qui est pour, qui est contre la PMA pour toutes?
Les gens qui sont pour, en tout cas qui se montrent et qui interviennent sur le terrain médiatique, sont beaucoup les associations des familles homoparentales, les associations de lutte contre l'homophobie.
C'est très important de se mobiliser parce qu'en face, on a des obscurantistes, des gens dont le seul but est de contester des droits qu'on veut obtenir pour être à égalité et qui vont se mobiliser encore. Donc oui, il faut bouger, oui, il faut descendre dans la rue.
Pour qui? Pour tous!
Les opposants, ce sont ceux qui étaient déjà contre le mariage pour tous, donc la manif pour tous, Alliance Vita, Juristes pour l'enfance.
Ils sont jeunes, parfois très jeunes, et forment une bonne moitié des cortèges contre le mariage pour tous.
On envisage de priver définitivement des enfants de père. Je peux vous confirmer, oui, qu'il y aura aussi une mobilisation immense.
On a aussi l'Église catholique qui est contre la PMA, mais pour tout le monde, donc y compris pour les couples hétérosexuels. Et puis également des médecins. Des médecins qui sont contre la PMA et qui nous expliquent qu'une PMA, c'est oui s'il y a des raisons médicales derrière. Des couples hétérosexuels infertiles, si cette infertilité est diagnostiquée, à ce moment-là, on peut partir sur une PMA.
Après son élection du 7 mai 2017, une fois arrivé au pouvoir, pendant le début de son quinquennat, Emmanuel Macron ne parle plus de PMA pour toutes. Pourquoi ?
Alors, c'est vraiment le mot d'ordre. On attend l'avis du Comité consultatif national d'éthique. On veut savoir ce qu'il pense de cette PMA pour toutes avant d'engager un débat. Les ministres sont priés de respecter ce mot d'ordre, sinon ils se font recadrer assez vertement. C'était le cas pour Marlène Schiappa, qui en septembre 2018 avait annoncé la PMA en 2018. On lui a fait comprendre que c'était peut-être un peu trop tôt.
Pourtant, et c'est le hasard qui veut ça, la PMA arrive dans l'actualité, car nous sommes en 2017 à ce moment-là, et comme tous les 5 ans, la loi de bioéthique doit être révisée.
Oui, c'est dans la loi depuis 1994. On doit adapter cette loi au progrès de la science. Voilà, on est amené à se prononcer sur la recherche sur les embryons. Voilà, c'est des choses qu'on n'avait pas en 94. Donc, on est obligé d'adapter cette loi. Ça tombe bien. Cette loi doit être révisée. Et donc, c'est à ce moment-là que s'engage le débat sur la PMA pour toutes.
Quand on parle de PMA pour toutes, finalement, on parle de quoi précisément ?
C'est un droit à l'accès des techniques de procréation médicalement assistée qu'on ouvre aux femmes seules et aux couples de lesbiennes, exclusivement sur une insémination artificielle avec donneur. C'est-à-dire qu'un donneur de sperme va aider ces femmes à avoir un enfant. On n'est pas sur de la fécondation in vitro, on n'est pas sur de l'accueil d'embryons, on est exclusivement sur cette méthode-là.
Et qui peut bénéficier de la PMA en France pour l'instant ?
Exclusivement les couples hétérosexuels. C'est le cas depuis 1994. Ce sont donc des couples qui ont été diagnostiqués infertiles, au moins pour l'un des deux membres, qui ont besoin d'un coup de main de la médecine pour avoir un enfant. Et l'autre cas de figure, c'est le risque de transmettre une maladie grave au conjoint ou à l'enfant, qui ouvre aussi aux techniques de la PMA.
Et donc, qui n'a pas le droit, qui n'a pas accès à ces techniques aujourd'hui ?
Les femmes célibataires donc, les couples de lesbiennes, mais aussi les femmes hétérosexuelles en couple qui sont âgées de plus de 43 ans, parce qu'en France, on ne peut pas bénéficier de ces techniques de PMA si on a dépassé cet âge. Et puis, des femmes aussi qui ont déjà fait un parcours de PMA, qui ont fait par exemple 4 fécondations in vitro. Et en France, c'est la limite. On ne peut pas aller au-delà. Pour les femmes qui ne sont pas arrivées à tomber enceinte après ces 4 FIV, bah, pour tout le monde, c'est direction l'étranger pour un désir d'enfant.
Alors justement, est-ce qu'on sait combien il y a de PMA réalisées chaque année par des Françaises à l'étranger ?
On estime les PMA faites à l'étranger entre 2000 et 3000. Il y a 11 pays européens qui permettent à toutes les femmes de faire une PMA. Mais les Françaises vont essentiellement en Espagne et en Belgique, qui sont les pays voisins. C'est aussi pour un souci de proximité, parce que quand vous recevez le coup de fil de la clinique, c'est maintenant, faut venir. Bah, on essaye de ne pas aller trop trop loin. Donc ce sont essentiellement ces pays-là qui accueillent les Françaises.
Qui sont les plus nombreuses à aller faire des PMA à l'étranger ?
Ce ne sont pas les lesbiennes, ce ne sont pas les femmes célibataires, ce sont essentiellement les femmes hétérosexuelles qui se rendent à l'étranger. Celles qui n'ont pas réussi ou qui ont dépassé l'âge légal pour prétendre à une PMA, c'est elles qu'on retrouve à l'étranger.
Les PMA, ça représente beaucoup de naissances en France ?
Oui, ça représente un enfant sur 30 en 2018, d'après les chiffres de l'INED, l'Institut National d'Études Démographiques.
Quand on parle de PMA, il y a forcément une question de coût et de remboursement. Combien ça coûte, par exemple, pour une femme seule, sans problème de santé et qui va en Espagne ?
Alors, d'après les témoignages que j'ai pu recueillir, les chiffres vont entre 8 et 10 000 euros. Parce que ça comprend l'hébergement, ça comprend les transports, les actes médicaux qui sont pas remboursés, les congés à poser aussi. Donc oui, c'est très cher.
À combien est-ce qu'on estime le coût d'une PMA en France pour la sécurité sociale ?
Alors, ça dépend de quoi on parle. Selon l'assurance maladie, le coût moyen d'une fécondation in vitro s'élève en France à un peu plus de 4 000 euros. Ça comprend encore une fois les traitements, la ponction d'ovocytes, l'hospitalisation et les actes eux-mêmes. Mais dans la PMA pour toutes, on ne parle pas de fécondation in vitro. On parle d'insémination artificielle avec donneur, qui est beaucoup moins onéreuse. Ça va autour de 1 000 euros. Et lorsqu'on regarde les chiffres de l'INSEE, on voit que les couples de femmes, ça tourne autour de 27 000 couples de moins de 45 ans. Donc on n'est pas tellement sur un enjeu financier, on est surtout sur une question sociétale.
Emmanuel Macron l'a dit, il faudra attendre l'avis du Comité national d'éthique. Comité national d'éthique qui organise les états généraux de la bioéthique entre janvier et avril 2018.
Oui, pendant 4 mois, en fait, on va prendre le pouls de la société sur plusieurs thématiques. Force est de constater que la recherche sur l'embryon, les neurosciences, l'intelligence artificielle, toutes ces thématiques-là ont été totalement éclipsées par la PMA pour toutes, même la fin de vie, qui pourtant est un sujet qui fait beaucoup parler. Sur le site dédié des états généraux, il était possible de donner son avis, de poser des commentaires sur les différentes thématiques abordées. Et 45% des commentaires concernaient la thématique procréation et société.
Et donc, il y a aussi des débats organisés dans des salles aux quatre coins de la France où les gens peuvent venir directement échanger. Racontez-nous ça.
Oui, il y en a 250 qui sont organisés dans toute la France sur plusieurs thématiques. Alors, on ne va pas parler que de la PMA pour toutes. Et il apparaît que lors de certains débats sur cette thématique-là de la PMA pour toutes, on a les opposants et les anti qui trustent un peu ces salles. Chacun s'accuse mutuellement de confisquer le débat. Ça a été parfois un peu tendu, oui.
Une fois que le gouvernement a récolté toutes ses contributions, nous sommes en avril 2018, et là, le dossier ne va pas avancer pendant plusieurs mois. Pourquoi ?
C'est toujours le même mot d'ordre. On attend l'avis du CCNE.
Je suis favorable à ce qu'on étende la PMA aux femmes seules et aux couples femmes de même sexe.
Vraiment, on n'a pas envie de revoir la manif pour tous défiler dans les rues de la France entière. Et donc, pour l'instant, on ne bouge pas.
J'attendrai que la Commission nationale d'éthique rende l'avis qui lui est demandé, ça doit être juste après l'élection, pour prendre la décision en faisant mûrir ce débat éthique et social, parce que je pense que ce sont des sujets graves qui ne se prennent pas à l'emporte-pièce.
L'avis du Comité national d'éthique tombe le 25 septembre 2018 et il est favorable à la PMA pour toutes.
Absolument, et on avait déjà eu avant ça le feu vert du Conseil d'État, du Défenseur des droits, donc à ce moment-là, on a vraiment toutes les instances qui se prononcent en faveur de la PMA pour toutes.
Et que dit le gouvernement à ce moment-là ?
Les vannes s'ouvrent un peu quand même. Là, on a des membres du gouvernement qui se prononcent très clairement en faveur de la PMA pour toutes et qui expliquent que oui, on va mettre tout ça en débat très prochainement.
Alors que jusque-là, ils étaient très discrets, ce que vous disiez.
Oui, on respectait. Lorsque le président de la République explique « on attend l'avis du CCNE », les membres du gouvernement sont priés de respecter la parole présidentielle.
Et là, au sein du gouvernement, une fois que le Comité consultatif national d'éthique se prononce pour, qui fait les sorties médiatiques en faveur de la PMA pour toutes ?
Sans surprise, Marlène Schiappa, secrétaire d'État à l'égalité femmes-hommes, et puis aussi Christophe Castaner, qui est secrétaire d'État chargé des relations avec le Parlement, qui se prononce favorablement aussi pour la PMA pour toutes.
Vous y êtes favorable,
je sais. Moi, j'y suis favorable. Vous savez que nous travaillons sur cette loi.
Quand ? Elle sera prête à l'été.
Oui, c'est effectivement une proposition que je porte à un moment où il y a une hésitation au sein même du groupe majoritaire à l'Assemblée nationale sur la PMA et le remboursement de la
à
PMA.
À l'intérieur du groupe à l'Assemblée nationale, il y a une hésitation sur la PMA
bien
aussi.
Bien sûr, il y a des hésitations, il y a des débats.
Il y a un engagement de campagne du président de la République d'ouvrir la PMA à toutes les femmes.
Vous avez été recadré quand même.
Mais absolument pas. Les mots n'ont jamais changé sur ce sujet depuis le début.
Et là, quelle est la réaction des opposants à cette mesure ?
Après l'avis du CCNE, il y a une petite manifestation qui est organisée au pied du bâtiment.
PMA, GPA !
Bon, il n'y a vraiment pas grand monde, une quarantaine de personnes. La crainte de voir les grandes manifestations de la Manif pour tous commence un peu à s'éloigner, d'autant qu'on a différents sondages qui montrent que 6 Français sur 10 sont favorables à la PMA pour toutes. Le gouvernement commence à être un peu tranquille sur la mobilisation de la Manif pour tous.
L'avis du Comité national d'éthique est favorable, il n'y a pas beaucoup de réactions des opposants. Et pourtant, la PMA pour toutes n'est pas lancée. Pourquoi ?
Parce que les députés souhaitent également participer aux discussions en amont, avant le débat parlementaire. Il est créé une mission d'information qui est présidée par Xavier Breton, un député LR qui est opposé à la PMA pour toutes. Le rapporteur, c'est Jean-Louis Touraine, qui lui est un député de La République En Marche, qui lui est favorable à la PMA pour toutes. Et là, c'est le défilé des experts, des représentants associatifs. On travaille sur la PMA pour toutes et cette mission rend aussi un avis favorable.
Emmanuel Macron reçoit des associations LGBT en novembre 2018. Qu'est-ce qu'il leur dit ?
Il est là pour parler avec les associations de la PMA, de l'homophobie, et il annonce à ce moment-là le report du débat en juin 2019. Il fait comprendre que ça ne sera pas à l'agenda tout de suite, et il y a 2 associations de femmes lesbiennes qui quittent la table.
Qu'est-ce qui explique ce report ?
À nous, journalistes, on nous explique que l'agenda parlementaire est surchargé et qu'on n'a pas le temps de le faire. Alors, il y a les élections européennes qui se profilent et on n'a pas envie de mettre sur la table plusieurs sujets supposés clivants. Donc ça, c'est la première raison. Et puis, en novembre, il y a la crise des Gilets jaunes qui démarre en France. Là aussi, la société, elle apparaît divisée, mais pas à cause de la PMA pour toutes. D'autant que la PMA pour toutes, elle n'est pas toute seule, quoi. Le projet de loi bioéthique, c'est un gros morceau, hein. Il y a plusieurs thématiques. Ce dossier-là, il n'est pas scindé. C'est potentiellement un très très gros sujet qui arrive, quoi.
Parce qu'il y a quoi d'autre ?
Les recherches sur l'embryon, l'intelligence artificielle, les neurosciences. C'est vraiment un très très gros morceau.
L'automne et l'hiver passent, on arrive à mars 2019 et rien n'a bougé. Comment ça se passe du côté des femmes qui attendent cette mesure ?
Bah, on s'impatiente et celles qui militent au sein des associations nous parlent à ce moment-là d'un phénomène inquiétant.
Cette année, il y a une augmentation spectaculaire des agressions contre les femmes. Oui. Lesbiennes. Là, on est sur un chiffre d'une femme agressée chaque jour. Comment est-ce qu'on explique ça ?
Les lesbiennes prennent la parole et témoignent beaucoup plus, d'où l'augmentation des signalements de 42% d'actes lesbophobes.
En France, aujourd'hui, on risque d'être agressé en toute impunité pour ça. C'est absolument pas normal. Je sais pas, les hétéros, ils se roulent des galoches partout, ils se mettent les mains aux fesses. Personne dit rien, c'est normal, mais dès que c'est une personne, oh là là, on va détourner le regard, oh là là, regarde comment elle est, les regards hyper insistants.
Et on nous explique à ce moment-là que ce climat délétère, ce flou autour de la PMA pour toutes, participe à l'augmentation de ces agressions. Donc il est temps de légiférer là-dessus.
Et Marlène Schiappa, la secrétaire d'État à l'égalité entre les hommes et les femmes, confirme ce calendrier le 7 mars 2019 dans Le Parisien. Elle confirme donc que le projet de loi sera présenté en Conseil des ministres avant l'été 2019. On en arrive à l'annonce d'Édouard Philippe. Pendant son discours de politique générale, il s'engage en faveur de la PMA pour toutes avec un calendrier précis. Présentation du projet de loi avant l'été, vote solennel avant la fin de l'année 2019. Est-ce que vous pensez, Christine Mathéus, que ce calendrier va être tenu ?
Oui, je pense vraiment que la loi va être votée dans les rangs de la majorité, à part la députée Agnès Thil, qui s'est prononcée contre la PMA pour toutes. Ça me semblerait quand même assez incroyable que la loi ne passe pas.
Au moment de rédiger la loi autorisant la PMA pour toutes, quelles vont être les questions qui vont se poser ?
Il y a plusieurs questions qui se posent. La France, elle est aujourd'hui dans une situation de pénurie de gamètes, donc de dons de sperme et d'ovocytes. Il y a 3000 couples qui sont en attente de dons aujourd'hui en France. Est-ce que ces femmes vont passer après eux ? Enfin, comment ça va s'organiser tout ça ? Ça, c'est une question qu'on est en droit de se poser. Le remboursement de la sécurité sociale. Aujourd'hui, les couples hétérosexuels qui entreprennent une PMA sont remboursés. Est-ce que ça veut dire qu'on va demander à ces femmes de participer financièrement à leur projet ? Et la troisième question, c'est l'affiliation. Aujourd'hui, la PMA pour toutes, elle est interdite. On est obligé de le faire à l'étranger. Donc, lorsque les couples de femmes reviennent d'une PMA faite en Espagne ou en Belgique, que l'enfant vient au monde en France, il n'y a pas de problème pour la mère biologique, mais pour la compagne, elle est obligée de passer par l'adoption pour être le parent légal de cet enfant.
Et là, comment ça se passerait ?
Alors aujourd'hui, une des pistes, c'est la présomption de comaternité. C'est un acte qui est signé devant un notaire, un acte de projet parental qui va faire de ces deux femmes les mères de cet enfant à naître.
Est-ce que ça va régler toute la question, finalement, cette nouvelle mesure ?
Pas forcément, parce que il y aura toujours des femmes qui auront dépassé la limite d'âge.
Qui est de 43 ans.
Qui est de 43 ans, absolument. Si le temps d'attente est trop long en France, peut-être que si elles ont les moyens, elles vont aller dans une clinique privée à l'étranger ou à l'hôpital. Hein, c'est le cas en Belgique, où il y a des hôpitaux publics qui permettent aux femmes de faire une PMA. Donc, ça ne va pas forcément régler tous les problèmes, non.
Le calendrier est donc bien défini par le gouvernement. Cette mesure semble donc lancée. Comment réagissent en ce moment les opposants à la PMA pour toutes ?
La Manif pour tous commence à mobiliser dans ses rangs. Elle prévoit d'ores et déjà des manifestations. Il n'est pas question pour eux que cette PMA pour toutes passe comme une lettre à la poste.
Christine Mathéus, on voit que le lancement de la PMA pour toutes aura pris plus de 2 ans. Mais en fait, finalement, ça fait beaucoup plus longtemps que ça que la mesure avait été promise, puis reportée.
Oui, le candidat à l'élection présidentielle de 2012, François Hollande, en parlait déjà. Il s'était prononcé en faveur de la PMA pour toutes. Et puis, après son élection, ça a été aussi une épidémie de revirement. Là aussi, on attendait l'avis du CCNE. On se demandait si on n'allait pas l'intégrer à une loi famille. Il y a eu les grosses manifestations de la Manif pour tous. Et on recule. Et puis, il y a eu l'arrivée à Matignon de Manuel Valls, qui est un farouche opposant à la PMA pour toutes.
Est-ce que François Hollande regrette de ne pas avoir fait la PMA pour toutes ?
Oui, il en a parlé tout récemment, au moment du 5e anniversaire de l'adoption de la loi du mariage entre personnes du même sexe. Il regrette de ne pas avoir franchi cette étape, qui manifestement va être franchie par son successeur.
Merci à Christine Mathéus. Épisode conçu et préparé par Jeanne Boézek. Réalisation et mixage, Alexandre Ferreira. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien. Nous sommes disponibles gratuitement sur leparisien.fr, l'application du Parisien et toutes les plateformes comme YouTube, Spotify et Deezer. Vous pouvez nous contacter via Twitter ou nous écrire codesource@leparisien.fr.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.